Culture Ville, Pascal Paradis.
Un roman, un ballet et une expo, voici le programme de cette seconde partie de Culture Vive. Muriel Malouf, vous avez assisté aux premières représentations du New York City Ballet.
Qui n'a pas mis les pieds à l'Opéra de Paris depuis plus de 40 ans.
Pauline Azidi, vous avez lu le nouveau roman de Dominique Jamet.
Un traître, un roman qui se déroule en France lors de la Seconde Guerre mondiale.
Quant à vous, José Marino, vous êtes allé en banlieue.
À la Cité des Rois, pas de Versailles, mais de Fontainebleau. Où là aussi s'exposent les artistes contemporains.
Le palais de Tokyo s'invite à Fontainebleau. José Marino, pourquoi dites-vous là aussi?
Parce qu'en ce moment, il y a de Jeff Koons aussi en abondance au château de Versailles.
C'est vrai, on en a beaucoup parlé.
C'est une figure de pop art, art contemporain si vous voulez, américain, pour faire concurrence en fait à la demeure du roi Soleil. Le château de Fontainebleau invite aussi les artistes contemporains. C'est vrai, il y a une rivalité entre les deux châteaux depuis des lustres. Hein. Vous savez, le château de Fontainebleau fut la résidence favorite de tous les rois de France, à tel point qu'il a acquis le surnom de l'hôtel du siècle. Beaucoup de monde a couché dans cet endroit, il faut le dire. Voilà, il est très grand et depuis le 17e, chacun des souverains y apporta son caprice dans l'ameublement, l'architecture et les œuvres d'art. Imaginez la diversité des époques, le contraste des époques dans ce palais de 1500 pièces. Vous imaginez, vous pouvez dormir presque plus de 3 ans dans une pièce différente.
Sans jamais être dans la même chambre. Voilà. Mais il y avait des cuisines, j'imagine, dans
Il n'y a pas que les chambres, il y a aussi des passages très secrets, etc. C'est à découvrir aussi. Mais même si Fontainebleau, en fait, avec ses magnifiques décors de la Renaissance, est considéré plus riche éclectiquement que celui de Versailles, c'est Versailles qui brille toujours mondialement. Il est mieux desservi par les transports, il est tout proche de Paris, évidemment.
Mais Fontainebleau, c'est plus loin.
C'est un peu plus loin, voilà. Donc il est dans un état impeccable. Puis il y a beaucoup, beaucoup plus de mécénats, il y a des réceptions somptueuses. Donc ils font aussi sa réputation mondiale avec des hommes politiques. On pense à Mitterrand, Chirac, tout le monde est passé par là. Tandis que Fontainebleau, par exemple, se trouve à 1 heure de train de Paris et il a besoin vraiment d'un lifting général, la plupart des pièces étant encore fermées au public, donc il lui faut beaucoup, beaucoup d'euros millions.
Donc il est un peu délaissé. Alors Koons, la superstar, vous le disiez, est au château de Versailles. À Fontainebleau, on voit les œuvres de qui?
D'une quinzaine, disons, d'artistes français et étrangers proposés par le palais de Tokyo. Réputé site de création culturelle. Ils ont tous...
Oui, c'est vraiment le lieu à Paris où on voit ce qui se fait de plus nouveau, dans la création contemporaine.
Poussé, pointu, disons. Et donc, ils ont tous joué le jeu de l'infiltration, disons comme ça, dans ce lieu classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la pure galerie de Diane, un éléphant s'envole sur sa trompe. Magnifique, c'est magnifique, vraiment. Magnifique prouesse d'un mastodonte posé en équilibre par le génie sculpteur Daniel Firman. Plus loin, par exemple, dans la salle précédente, une installation faisant allusion à la bibliothèque du terroriste Una Bomber est signée par le collectif Dora Winter. Et là, Pascal, la pilule ne passe pas. Choquée par la provocation, la haute société Bellefontaine s'est retenue de
quelques
jours.
C'est comme ça qu'on dit, Bellefontaine de Fontainebleau.
Voilà, tout à fait. Donc, vous savez qui est l'auteur, en fait, de cette provocation? C'est de ces jolis délits, en fait. C'est Bernard Notary, le directeur de Fontainebleau, qui n'a pas échappé à quelques fureurs des visiteurs, mais il reste fidèle à sa grande réputation de punk téméraire. Voilà.
Donc c'est du punk téméraire que l'on peut voir à Fontainebleau. Est-ce que ça décape un peu ou...
Oui, c'est-à-dire pour ceux qui l'ont jamais vu, en fait, les œuvres exposées, c'est intéressant, le contraste décoiffant de l'expo entre le patrimoine et l'art contemporain. Bon, c'est modeste, l'expo, très peu de choses à découvrir, nouvelles, parce que certaines œuvres ont été déjà exposées, donc à la FIAC. Voilà.
Mais tout le monde n'est pas passé à la FIAC. Donc, on peut aller au château de Fontainebleau, et ce jusqu'au 17 novembre.
Cette danse classique est absolument incroyable. On croit toujours qu'elle va être démodée et elle revient toujours, même avec des ballets du répertoire. Quand on voit par exemple le ballet épisode de Georges Balanchine sur la musique d'Anton Webern qui date à peu près d'une cinquantaine d'années, pour le ballet en tous les cas, on est émerveillé devant autant de beauté, autant d'abstraction et autant de poésie en fait.
Ainsi parle Brigitte Lefebvre, la directrice de la danse de l'Opéra de Paris, et c'est une façon de saluer, Muriel Malouf, la venue en France du New York City Ballet, et ce n'est pas un mince événement.
Non, absolument, puisque cela fait donc 40 ans que le New York City Ballet n'avait pas mis les pieds, voire les ballerines, sur la les scène pointes. De l'opéra, les pointes. Alors, il faut savoir aussi que c'est la première fois que l'Opéra Bastille accueille une compagnie étrangère à l'Opéra de Paris, puisque jusque-là, c'était surtout au Palais Garnier, hein, comme le Bolshoï était déjà venu et d'autres compagnies. Mais l'Opéra Bastille, donc, c'est la première fois qu'il accueille une si grande troupe, puisque le New York City Ballet est arrivé avec, attention, ses 99 danseurs et 7 stagiaires. Alors, pour la petite histoire et la grande, il faut rappeler que cette compagnie a été fondée par Georges Balanchine. Il débarquait fraîchement de sa Russie natale en 1933. Et il ne s'est pas contenté de fonder une compagnie, il a aussi fondé une école sur le modèle russe. Le chorégraphe donc a repris un peu tout ce qu'il a connu dans son enfance à Saint-Pétersbourg. Et c'est très important la présence de cette école, parce que ça donne un style à la compagnie, puisque 90% des danseurs de la compagnie viennent de l'école. Donc ça donne vraiment un style. Il est rejoint, Georges Balanchine, quelques années plus tard par quelqu'un qui va devenir aussi un autre grand nom de la danse. C'est Jérôme Robbins, un Américain, lui né en Amérique, mais de parents russes aussi. Donc à eux deux, ils donneront une identité au New York City Ballet qu'ils dirigeront pendant une cinquantaine d'années, un demi-siècle de création de la danse classique, imprégnée à la base donc par l'école russe, mais aussi Amérique oblige, influencée par Broadway.
Forcément. Mmh. Alors, ce ballet vient avec quel répertoire, Muriel ? Du classique-classique, du néo-classique ou du contemporain ? En fait, tout ça, ce sont des étiquettes, mais quand même, ça a une réalité sur scène.
Oui, tout à fait. Mais en fait, un panel très large, un peu tout le savoir-faire du New York City Ballet, puisque au programme, il y a 4 représentations différentes, avec chaque fois des chorégraphies différentes. Il y a surtout des chorégraphies de Balanchine et de Robbins, qui constituent donc le répertoire que transmet à présent la compagnie. Mais en fait, ce n'est que la moitié de la production du New York City Ballet actuellement. Il y a aussi des chorégraphies contemporaines. On pourra par exemple voir des créations de Peter Martins, qui est l'actuel directeur du New York City Ballet, mais aussi de Benjamin Millepied, le talentueux chorégraphe français. Ça sera l'occasion en tout cas d'apprécier des œuvres allant du classique au néoclassique jusqu'au contemporain, en sachant que la majeure partie des chorégraphies présentées à Paris sont quand même de Balanchine. On écoute Brigitte Lefebvre.
Je dirais que par rapport à la technique classique, par rapport à l'art académique et l'évolution de l'art académique, Balanchine est le génie du XXe siècle. Il a d'ailleurs beaucoup travaillé avec le ballet de l'opéra, mais il a vraiment, je crois, imprimé cette musicalité, cette manière qu'il avait d'être à la fois proche d'une énergie presque de jazz d'ailleurs, même avec des musiques classiques comme Mozart ou Tchaïkovski ou d'autres, mais c'est une espèce d'investissement incroyable de contretemps rythmique et aussi une espèce de danse toujours qui va plus loin, qui danse très loin et qui d'ailleurs a elle-même continué après avec Billy Forsythe, avec Owen McGregor et autres. Donc il a vraiment été celui qui a porté de nouvelles racines, si vous voulez, à l'art de la danse académique.
Ballet à Paris. 4 programmes sont à l'affiche donc de l'Opéra Bastille. Vous avez vu lequel, Muriel ?
Le premier.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire en fait celui qu'ils ont appelé à l'Opéra de Paris un peu les fondements de New York City Ballet. Et c'était que des chorégraphies de Georges Balanchine. Et il y en avait 3. Alors il y en avait 2 qui étaient plus classiques, on va dire, sur des œuvres de Mozart et de Tchaïkovski, qui sont en fait des ébauches d'un ballet qui veut sortir de la fiction et toucher l'abstraction, et la gestuelle restant très classique. Mais il y avait une chorégraphie sur une musique de Webern qu'a évoqué d'ailleurs Brigitte Lefebvre, épisode où on touche là une gestuelle vraiment très moderne, où le mouvement se fait anguleux, le déplacement des danseurs géométriques. Une pièce assez révolutionnaire à l'époque. Il faut dire qu'elle a été créée, attention, en 1959, Et aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'à l'époque, elle devait être très révolutionnaire. Aujourd'hui, bon, elle nous apparaît plutôt comme une page de l'histoire de la danse.
Mais c'est donc une page de la danse et d'un siècle de danse que l'on peut voir à l'opéra avec le New York City Ballet,
oui,
finalement,
vrai,
en ce moment. Donc le New York City Ballet à l'Opéra de Paris, à la Bastille, c'est jusqu'au 23 septembre, avec une soirée de gala le 18 à Garnier, où l'on pourra voir notamment les deux compagnies, celle de New York plutôt, et le Ballet de Paris.
Et si je t'aimais en 17 à l'Eidenstadt, sous les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand?
Jean-Jacques Goldman sur les platines de Culture Vive, drôle de choix Polinazini, d'autant que vous allez nous parler d'un roman qui est celui de Dominique Jamais. Quel rapport?
C'est le titre de la chanson finalement qui est en lien avec ce livre, Un traître. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, si j'avais été je chante moins bien que Jean-Jacques Goldman, hein. Si j'avais été allemand, aurais-je été pire que ces gens-là? C'est le sujet du livre de Dominique Jamais. Finalement, est-ce qu'on a une présomption à être un traître ou pas, une prédisposition à être un traître ou pas? Sauf que là, dans ce livre, on ne parle pas de la Grande Guerre, mais de la guerre 39-45. À travers l'histoire d'un jeune garçon, Jean Delot, il a tout juste 20 ans en 1940, et ses études sont interrompues à cause de la guerre. Alors finalement, pour gagner sa vie, il devient un peu par hasard traducteur des services allemands, tout simplement parce qu'une partie de sa famille vient d'Allemagne et qu'il est bilingue, donc c'est plutôt un travail facile pour lui. Et surtout qu'au départ, il a l'impression de le faire pour aider ses compatriotes, et notamment pour faciliter le dialogue entre l'occupant et les occupés. Par exemple, faciliter toutes les démarches administratives des familles françaises sous la direction de l'autorité allemande. Alors seulement, à cette époque-ci, traduire, c'est déjà trahir. Et tout le livre tourne autour de ce garçon qui va doucement sombrer du côté obscur, comment sans vraiment s'en rendre compte, il va devenir non seulement un collabo, mais peut-être le pire d'entre eux, comment il va épouser la cause allemande et tous ses préceptes, hein, et finir par devenir presque le petit chef de la Gestapo française de sa région, un petit chef sanguinaire, craint, redouté, efficace surtout, et comment ce garçon promis un avenir de banquier, tout ce qu'il y a de plus classique, va se transformer en psychopathe, on va pouvoir dire en manipulateur, mais toujours pour faire ce qui, selon lui, est juste, hein, avec une bonne foi désarmante durant tout le roman. C'est un homme qui n'a pas de vice, qui ne boit pas, qui ne fume pas. Il croit en ses certitudes, c'est-à-dire il croit en traquer les méchants, les terroristes, à savoir les résistants français.
Et c'est un thème qui revient souvent, enfin souvent, c'est peut-être beaucoup dire, mais qui est revenu plusieurs fois sous la plume de Dominique Jamais, qui a été un grand journaliste, qui a été longtemps aussi le directeur de la Bibliothèque nationale de France et qui est romancier. La question de la traîtrise, la question du passé. Est-ce que je me trompe si je dis que le père de Dominique Jamais lui-même a été collabo?
Non, vous ne trompez pas du tout. La traîtrise, effectivement, et comment n'importe qui finalement peut finir par trahir, est un thème cher à Dominique Jamais. Vous le disiez, il a été marqué par son histoire familiale. Dans un de ses précédents romans, Un petit Parisien, 1941-1945, il racontait l'histoire d'un petit garçon de 6 ans, son histoire à lui, lors des années d'occupation, avec son regard sur un père pacifiste, mais tellement convaincu par ses idéologies pacifistes, qu'il avait fini à l'époque par mettre toutes ses idées au service de l'occupant et finalement à devenir collabo. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué Dominique Jamais, qui s'est dit comment mon père, quelqu'un de bien à la base, quelqu'un qui défendait des bonnes idées, a pu se transformer en collabo. Cette fois-ci, pour ce roman, il se détache de sa famille, hein, et de la réalité pour inventer ce personnage de Jean Delot, même si ce profil a finalement dû exister. Il dit d'ailleurs cette
librement... Il a dû croiser des Jean Delot.
Voilà, il l'a dit, cette librement inspirée de la vie d'un collabo, il ne le cite pas. Moi, j'ai cherché Jean Delot, ça veut rien, enfin sur internet ça ne sort pas, il n'y a pas de collabos à ce nom là qui ont été jugés. En plus, Dominique Jamais, donc vous le disiez, c'est un journaliste, et ça se ressent dans le livre car il a une écriture de presse, si l'on peut dire. On n'est pas dans une histoire romancée ici, les faits sont relatés de manière très neutre, voire impersonnelle, peu d'objectifs qualificatifs, pas de point de vue de l'auteur. Il arrive vraiment à se détacher de cette histoire comme un compte-rendu de la vie de ce collaborateur. Et si parfois ça peut être laborieux parce que cette absence de romance, par moments, elle est presque indigeste, ça reste très très efficace. On suit de façon objective le parcours de ce jeune garçon et on peut s'empêcher de se demander finalement, bah oui, si nous on était nés à cette époque-là, si on avait vécu dans la même famille que ce Jean Delot, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Est-ce qu'on aurait été pire que ces gens-là si on avait été allemand ?
Mais alors, est-ce que c'est un roman, un essai philosophique ou un livre d'histoire, finalement, qui dresserait le portrait d'un collabo fasciste ?
C'est vraiment un mélange des trois. J'ai envie de vous dire que c'est un roman, puisque tout est inventé, c'est une fiction. Maintenant, c'est un livre d'histoire, parce qu'on traverse vraiment l'histoire de France, et l'histoire de France jusqu'à nos jours, parce que le roman va jusqu'au jugement de ce Jean Delot, qui a été arrêté 20 ans après.
J'imagine que jamais le sens des détails, le sens de la description.
Exactement, oui,
situations.
Le discours de Gaulle est noté, quand le discours de Pétain aussi sont notés. Enfin, tout, il y a des vrais éléments historiques qui fait que ça remet complètement l'histoire dans son contexte. Maintenant, la ville est fictive, l'histoire du personnage est fictive. On espère que les faits pour lesquels il est condamné sont fictifs, parce que franchement, c'est assez dur. Et en même temps, c'est un essai philosophique, vous le disiez, parce que on se pose cette question. On ne peut pas s'empêcher de se demander qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place et si on a tous une prédisposition un jour à la traîtrise, à devenir traître.
Un traître de Dominique Jamais est édité chez Flammarion. Merci à tous. Culture Vive avec Florence Ponce, Nicolas Spiga à la réalisation, Guillaume Lacroux à la technique. Demain, le chanteur Julien Clerc sera notre invité pour son nouvel album Où s'en vont les avions, qui sort aujourd'hui. Donc on va l'écouter en avant-goût de l'émission de demain. Bien à vous, à demain.
Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Je ne vis plus, tu sais, je brûle. Et tout ce qui la blesse me tue. Jalouse et belle. Et je veille sur son sommeil. Elle se penche, elle se balance. Vous voyez bien que rien ne manque. Ni les silences, ni les serments, ni les rubans fidèles et bleus, ni les querelles des amoureux. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue. Quand vient le soir, n'allez pas croire qu'on fera l'amour dans le noir. Et dans la chambre, elle rit, elle ment. Et moi je meurs d'amour pour elle. Les autres autrefois, je pense à elle. Comme un bon Dieu sans trop y croire. Le fol espoir de l'amour fou. Elle danse, elle chante. Et quand elle sort, j'attends, j'attends. Je prie sûrement. Des souliers noirs, une jupe en laine. Je ne dors plus, tu sais, je veille sur son sommeil. Et tout ce qui la blesse me tue.